Oui, on arrête ici, malgré que ça nous aurait fait plaisir de continuer d'écouter cette chanson magnifique qui fait partie de l'album Lepta, de Prélude à l'amour comme un sage, mais on a envie de parler avec Danny Trottier, qui signe le livre Comme un sage dans les nuages, Serge Fiori et l'épopée d'Harmonium. Bonjour, Danny Trottier.
Bonjour et merci de me recevoir ce matin.
Ça nous fait très plaisir. Vous êtes musicologue, professeur titulaire de musicologie à l'Université du Québec à Montréal notamment. Être musicologue, Danick Trottier, ça veut dire quoi? Ça implique quoi?
Ça implique qu'on étudie d'abord la musique dans des perspectives qui peuvent être à la fois historiques, sociales, esthétiques. Et donc, le musicologue, comme par exemple le sociologue pour la société ou le psychologue, évidemment, pour la psyché humaine. Donc, nous, on étudie la musique. Et ça peut être, on l'explique aussi par les genres musicaux. Hein, et c'est pour ça qu'Harmonium est une formation si intéressante. Harmonium a une évolution dans les genres musicaux incroyable.
Et vous, Danick Trottier, bien avant d'écrire ce livre-là, votre rapport à Harmonium et à Fiori, quel était-il?
Le tout a commencé pour moi dans les années 90, alors que j'étais adolescent. Je suis de la génération qui a suivi celle d'Harmonium. Donc, j'ai découvert Harmonium autour des feux de camp, dans les activités, surtout l'été, dans les Saint-Jean. Et Harmonium est très vite devenu pour moi une voie pour apprécier un Québec plus rock, alors que ma culture rock était plus anglophone à l'époque, forcément. Évidemment, je revenais à des groupes comme Pink Floyd, Genesis. Et quand j'ai découvert qu'on avait un groupe l'équivalent au Québec, qui est Harmonium, alors là, ça fait le coup de tout de suite, et puis ça ne m'a jamais quitté par la suite. Et j'intègre aussi, évidemment, Harmonium dans mon enseignement à l'université parce que c'est un groupe incontournable. C'est un groupe qui nous permet de parler autant de rock progressif que de parler de la contre-culture, des idéaux des années 70. Donc, c'est un groupe qui est à la confluence de tellement de réalités.
Alors, vous enseignez Harmonium depuis quelques temps, mais ce livre-là est né, je crois, à la suite, le 24 juin 2025, vous le racontez, vous vous rendiez à Radio-Canada pour parler de Jean du Pays de Vigneault, dont on soulignait, je crois, le 50e anniversaire?
C'est très juste. Et je sors de Radio-Canada, je m'en vais à mon café, là, pas loin de l'UQAM, et quelqu'un annonce que Serge Fiori est décédé. Comme plusieurs, au début, j'étais incrédule. J'ai cru un canular. Ça se peut pas. En plus, la journée de la Saint-Jean, c'est comme pas possible. Et effectivement, donc j'ai eu à me rendre à l'évidence. Et il se trouve que j'avais déjà écrit sur Harmonium parfois dans l'espace public, où j'avais déjà fait des interventions sur Harmonium. Alors là, j'ai été sollicité par plusieurs médias. J'étais dans un tourbillon médiatique que j'ai apprécié par ailleurs, mais je sentais que j'avais pas dit tout ce que j'avais à dire parce que j'étudie la musique d'Harmonium depuis quelques années. Et donc, l'occasion s'est présentée pendant une année qui était pour être une année sabbatique pour moi, puisque je n'allais avoir ni enseignement ni tâches administratives. Et donc, j'ai pu écrire ce livre, me plonger à fond là, dans la musique de Fiori et d'Harmonium.
Mais ça donnait bien quand même cette année sabbatique-là. Vous n'avez pas pu vraiment vous reposer, mais vous avez écrit sur Harmonium, sur Serge Fiori. Et comment vous présentez votre livre? C'est pas une biographie, c'est un ouvrage de musicologie. Est-ce que ça s'adresse à certaines personnes qui ont des connaissances universitaires? Quelle clé de compréhension vous vouliez offrir au lecteur sur Fiori et Harmonium?
C'est une excellente question. Comme musicologue, c'est sûr que j'ai été formé à écrire plus des monographies scientifiques. Mais là, je rassure, ce n'est pas une monographie scientifique. Donc, j'ai voulu vraiment écrire un livre qui peut rencontrer un large public, très vulgarisé au niveau des connaissances. Alors oui, c'est sûr que je vais dans mon coffre à outils de musicologue, je développe certains concepts et puis j'explique la nature de ces concepts-là, mais je le fais toujours de façon, je pense, très vulgarisée, très facile à comprendre. D'ailleurs, c'est un livre qui se lit quand même assez rapidement. Oui. Il tourne autour de 4 chapitres. C'est un livre qu'on peut facilement traverser en 2 journées. Là,
et 124 pages.
Oui, tout à fait, 124 pages, donc ça montre que c'est pas une biographie critique exhaustive là, qui pourrait faire 500 pages, on est vraiment pas là. Et je le dis d'ailleurs, j'apporte une pierre à l'édifice que constitue la connaissance d'Harmonium, donc il reste d'autres pierres à ajouter. Il va y avoir d'autres études dans les prochains mois qui s'en viennent, alors moi c'est un jalon. Et je relance aussi, j'ai voulu relancer les études sur Harmonium parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et j'estime qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur Harmonium encore, toute l'évolution stylistique de Fiori, pourquoi cette musique-là n'est pas encadrée avec la réalité québécoise des années 70. Donc, je m'attends vraiment aussi au contexte. Le contexte était très important pour moi. Et surtout, je ne fais pas toute la vie de Fiori. Alors là, absolument pas. Je m'arrête à la fin des années 70. Donc, pour moi, la grande période importante, ça, c'est les années 70.
Oui. Ben, c'est pendant les années 70 que les trois albums d'Harmonium sont nés.
Oui, exactement, oui. Les trois albums originaux. Il y en a eu un dernier qui est le double album de 80 qui est Harmonium en tournée, mais c'est différent, c'est l'heptade enregistré en concert. Mm-hmm. Quand on parle d'Harmonium comme groupe original, on parle de trois albums, 74, 75, 76, dont le dernier qui est l'heptade, le double album en 76. Donc, vous imaginez à quel point c'est une créativité incroyable qui a émergé en si peu de temps. Donc, oui. C'est tout à fait exceptionnel dans notre histoire.
Et vous parlez d'album concept. Ça veut dire quoi, ça, un album concept, en ce qui concerne les trois albums là, de 1974, 75 et 76?
L'album concept est d'abord une conception d'un album autour d'une idée qui initie l'album. Ça peut être une idée qui est à la fois dans le texte. Les textes peuvent se répondre ou créer comme une narration. Ou ça peut être aussi dans la pochette de l'album avec une idée suggérée, ou ça peut être dans les enregistrements avec l'idée d'unifier le son de l'album. Les albums concept, ça vient de la tradition anglophone anglo-américaine. Sgt. Pepper's, par exemple, des Beatles en est un. Dans le cas de Harmonium, l'album de 74 s'appelle Harmonium, et pour moi, c'est un album manifeste. La première chanson s'appelle également Harmonium. Donc, c'est mm-hmm. un groupe qui se dit, ben voici, nous existons et nous faisons de la musique en harmonie. Donc, c'est l'idée de l'harmonie sociale, l'harmonie musicale qu'il y a derrière cet album. Ensuite, le deuxième, si on avait besoin d'une cinquième saison, bien là, c'est très clair. On traverse l'idée de quatre saisons qu'on connaît déjà, mais il y a une cinquième saison qui est imagée, qui est la saison de l'imaginaire, qui est finalement la pièce Histoire sans parole, qui est magnifique. Et enfin, le double album, le TAD, ben là, c'est le chiffre 7 qui est mis à l'avant-plan avec les 7 niveaux de conscience. Et c'est pourquoi on a 7 chansons principales sur l'album. Et donc, chaque album se tient autour d'une idée forte chez Harmonium. Et ces idées-là vont marquer, évidemment, l'imaginaire de l'époque.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a un album qui se démarque davantage d'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort, qui est meilleur?
Ça, c'est une question qu'on aime beaucoup me poser. J'aime beaucoup y répondre en même temps parce que je vais sortir un petit peu, disons, des idées reçues. On va souvent dire que le summum d'Harmonium, c'est l'heptade. Ouais. Et j'adore aussi à cette idée parce que c'est un double album, c'est la fin. Bon, ça va tellement loin avec le crescendo final qui est comme un sage qu'on a entendu tantôt. Donc, je trouve ça très beau. Mais personnellement, depuis que je suis jeune, je suis très attaché à l'album si on avait besoin d'une cinquième saison.
Ah oui, le deuxième.
Le deuxième parce qu'il est très instrumental, histoire sans parole, pour moi, c'est un bijou. C'est comme une petite symphonie, hein, Histoire sans parole. Et c'est le tournant très instrumental qu'a pris Harmonium à partir de cet album-là. Dixie, Depuis l'automne, Vert, ça reste des chansons qui m'habitent. Donc, alors, autant j'aime beaucoup l'heptade, autant j'aime toujours rappeler que si on avait besoin d'une cinquième saison, c'est un album incroyable. Et c'est l'album le plus célébré, soit dit en passant, au-delà du Québec, dans le monde anglophone, quand on va parler des grands albums qui ont marqué la culture rock progressive, ça va toujours être l'album de Harmonium qu'on va choisir.
Alors, Danick Trottier, on n'écoutera pas Histoire sans parole parce que c'est 17 minutes et combien de secondes?
Et 30 secondes environ, le mémoire.
On va écouter Dixie pour célébrer l'été, puis on va revenir avec vous. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de cette chanson-là. Puis on a d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous embarquez?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
C'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus le même temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta toune qui me revient comme le soleil tout le temps? Chauffer mes oreilles. Hey,
De l'album Si on avait besoin d'une cinquième saison, on écoutait Dixie. C'est peut-être un des rares succès commerciaux qu'on a entendu beaucoup à la radio, Dixie, d'Annick Trottier.
Tout à fait. Hein? Ça, c'est un élément qu'on a la difficulté aujourd'hui à imaginer, mais Harmonium, à la base, c'est pas un groupe de tubes. C'est pas un groupe de chansons qui ont énormément tourné à la radio. En fait, quand on se pose la question, on peut en nommer trois. On peut nommer Dixie pour un instant, puis un musicien parmi tant d'autres.
Ouais.
Il arrive parfois que d'autres chansons vont aller à la radio, mais c'est plus rare. Si on compare, par exemple, avec Beau Dommage, Beau Dommage, c'est une série de tubes, d'album en album. C'est vraiment très différent. Harmonium nous a laissé plus des albums qui s'apprécient sur le long terme, des albums complets, et Fiori s'opposait souvent à une logique commerciale qui aurait privilégié le tube à l'époque ou le 45 tours. Donc, il pensait vraiment son travail artistique autour d'albums.
Et la musique prend énormément de place dans toutes les chansons. Celle-là, bon, il y a des paroles, mais vous parlez tantôt de histoire sans paroles. Est-ce que vous diriez que les paroles comptaient moins pour la formation, pour Serge Fiori?
Ah, ça, c'est une question très, très, très intéressante. Alors, il y a toujours une opposition en musique populaire, surtout rock, là, à partir des années 60, qui va opposer le texte versus la musicalité. Bon, est-ce qu'on a besoin absolument d'un texte? Ben, si on est en chanson, oui, ça le dit, une chanson, normalement, il y a un texte. Mais il se trouve que même en musique populaire et surtout rock, on a toujours développé de la musique instrumentale, n'est-ce pas? Et parfois, on a opposé deux traditions dans le Québec, mais aussi en Occident, là, dans les années 60. On a mis d'un côté plus une tradition folk, puis qui a été aussi également une tradition de chansonnier, où le texte prend toute une valeur, par exemple chez Félix Leclerc, Gilles Vigneault, versus une tradition qu'on a dit plus rock, yéyé, avec un texte qui prend moins de place et plus une musicalité. Mm-hmm. Bon, ce sont des oppositions qui sont simplistes, il faut faire vraiment attention. Dans le cas d'Harmonium, je vous dirais qu'il y a une évolution, puis c'est très compliqué. Le texte a une importance Harmonium. Quand vous prenez, par exemple, la chanson Harmonium pour un instant, ou vous en prenez une autre comme un musicien parmi tant d'autres, ce sont des textes très forts là, au niveau des significations. Il y a l'idée de réunion, de jouer ensemble, de s'écouter. Donc, il y a quand même, le texte est important. On ne peut pas dire qu'il n'est pas important. C'est seulement que Harmonium, à partir de Si on avait besoin d'une cinquième saison, donne toujours une importance au texte, mais commence à développer une musique très instrumentale. Et l'instrumental devient aussi important que le texte. Mm-hmm. On vient de l'entendre dans Dixie. Dixie, la moitié de la chanson est chantée, puis l'autre moitié, ce sont des parties des interludes avec différents instruments.
Ah oui, c'est
donc
très riche.
C'est très riche, exactement. Donc, Harmonium, il ne faut pas opposer texte et musique, il faut plutôt voir comment le texte a une importance, mais comment la musique elle-même aussi a une importance, raconte une histoire. Donc, je sais que ça peut paraître abstrait de se dire une musique raconte une histoire, mais une musique a une narration, une musique a une continuité, la musique épouse une logique dans laquelle on peut très bien embarquer comme auditeur. Et je vous dirais enfin que l'album Leptade montre pour moi l'équilibre entre les deux. Leptade, les textes sont très riches. Il y a énormément de textes dans l'heptade. C'est l'album d'Harmonium qui contient le plus long en termes de texte. Et pourtant, il y a aussi des parties très instrumentales. Il y a des arrangements de Neil Schottem. Donc, disons que c'est Harmonium. Il ne faut pas opposer les deux. Il faut voir les deux en complémentarité.
Et d'Annick Trottier, vous diriez à la question suivante quoi exactement? Quelle est l'histoire principale que raconte Harmonium, que raconte Serge Fiori?
L'imagination, l'ouverture vers l'imaginaire, ce qui est très beau parce que l'imaginaire, c'est ce qui, évidemment, enfante l'art en général. Hein? L'imaginaire, c'est ce qui nous permet d'imaginer des romans, imaginer évidemment des pièces de théâtre, bon, de la musique, etc. Mais chez Harmonium, il y a tout un imaginaire qu'a pensé Fiori, l'imaginaire du musicien, le musicien au centre de tout, l'imaginaire de la nouvelle saison, c'est celle de la cinquième, l'imaginaire de comme un sage, donc le fou qui devient sage. Donc, la portée de l'imagination de Fiori traverse toute la production d'Harmonium, et c'est une imagination qui est sans limite, sans borne. C'est l'idée que l'être humain peut accéder à une forme de transcendance. Mais la transcendance n'est pas obligée d'être spirituelle, elle peut être aussi sur Terre, dans l'idée de rêver mieux, de faire quelque chose de différent. Évidemment, il y a des idéaux de l'époque qui vont résonner avec cette vision de Fiori, que ce soit les idéaux nationalistes, les idéaux de la contre-culture, mais il n'en demeure pas moins que c'est ça pour moi qui marque vraiment la contribution également de Fiori.
Vous évoquez la relation presque fusionnelle entre Fiori et son public. Comment vous l'expliquez?
Ah, je l'explique par le fait que on est d'une part dans une époque où le showbiz québécois est très, très, très orienté vers la musique. Donc, c'est le cas également des Diane Dufresne, des Jean-Pierre Ferland. Donc, on était une époque où la vedette en musique là, joue un rôle de premier plan. Donc, déjà, ça joue énormément. Mais je dirais aussi que Fiori était un des très jeunes musiciens de l'époque à avoir autant de succès. Et très jeune, donc il ralliait beaucoup les jeunes qui se voyaient en lui. Et il portait tellement un message fort dans ses chansons. Il avait une communion sur scène, mais c'est incroyable. D'ailleurs, je vous invite à consulter des fois des images sur YouTube. Il y a des archives là, sur YouTube là, qui sont sorties ces derniers temps. On voit Fiori qui s'adresse à son public, mais il est d'une sensibilité à fleur de peau. Donc, le public adhère à cette sensibilité-là. Puis, il y a quelque chose, une chimie qui se crée lors des concerts d'harmonium. Donc, c'est pour ça que le public l'aimait tant. Et c'est pour ça que ça va être lourd à porter pour lui. Imaginez, des fois, il revenait chez lui, puis il y avait des gens qui l'attendaient. En bas, ou parfois même des gens dans son appartement qui étaient rentrés dans son appartement puis qui l'attendaient. Donc, l'effacement entre vie privée et vie publique va devenir tellement fort que ça va finir par étouffer Fiori.
Oui, ça, c'est le côté sombre de l'histoire.
Oui, exactement.
L'héritage, vous parlez d'héritage dans votre livre parce qu'il a influencé beaucoup de monde. Serge Fiori, plusieurs musiciens, vous nommez entre autres Daniel Bélanger, les colocs, Louis-Jean Cormier, Claude Pelgag. Quel genre d'héritage il a laissé à ces artistes-là?
Il a laissé un héritage, d'une part, je dirais, sur le plan musical, un héritage d'une musique travaillée, franchement approfondie avec des thèmes forts. Fiori est un de ceux, à l'époque, avec ses comparses d'harmonium, qui ont voulu faire des textes qui sont une portée un petit peu plus universelle. Quand on regarde les textes d'harmonium dans les années 70, ils ne font pas toujours référence directement à ce qui se passe. Ils sont plus des textes qui ont une portée universelle, sont un peu intemporels. Donc ça, on va retrouver ça beaucoup, par exemple, chez Daniel Bélanger. Le travail de guitare aussi, les accords de guitare, la richesse des accords de guitare de Fiori, je trouve qu'on les retrouve parfois chez, encore une fois, un Daniel Bélanger, mais aussi un Louis-Jean Cormier, chez Patrice Michaud, chez d'autres musiciens également. Donc, il y a cette touche-là. Et aussi, Fiori a assumé son héritage, ses influences anglophones. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'au Québec, on a tendance à vouloir parfois isoler la musique. C'est normal, on veut la protéger, on veut protéger notre culture. Et là, on en fait une expression particulière, ce qui est bien normal. Mais en même temps, il ne faut pas se couper des influences qui viennent du monde global. Et parmi ce monde global, il y a évidemment les influences anglo-américaines qui sont très importantes. Et en ce sens-là, aujourd'hui, je ne pense pas que de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes qui ont peur de se revendiquer des influences anglophones. Alors qu'à l'époque, dans les années 70, c'était tabou. Après la période yéyé, les yéyés ont été très critiqués pour ça. Et là, dans les années 70, surtout dans le rock progressif, on ne voulait pas trop nommer les influences alors que Fiori ne s'en cachait pas. Donc, je trouve ça aussi intéressant. Donc, je dirais que l'héritage est là. Et enfin, c'est sûr que les chansons d'harmonium m'ont tellement fait rêver qu'il se peut. C'est pas dit, mais je suis convaincu qu'il y en a qui ont décidé de prendre une guitare, qui ont décidé de commencer à écrire de la musique suite à l'aventure d'harmonium. Ça, c'est certain. Harmonium a eu tellement de réverbération dans notre histoire que forcément, il y a eu des carrières qui ont commencé avec Harmonium. Ça, je n'en doute point.
Danick Trottier, c'est passionnant de vous entendre. Demain, on va penser à vous. On va penser, évidemment, à Serge Fiori. Déjà un premier anniversaire qu'on soulignera un petit peu partout, j'imagine, dans toutes les célébrations autour de la fête nationale. Je rappelle le titre de votre livre, « Comme un sage dans les nuages, Serge Fiori et l'épopée d'Harmonium ». Et c'est publié aux presses de l'Université de Montréal, c'est ça? PUM?
Oui, c'est exact.
Dans la collection La Petite Culture, et on apprend plein de choses, notamment que Serge Fiori a eu comme premier groupe les Contes Arbeaux. J'ai trouvé ça très rigolo et je suis même allée écouter les chansons L'Humanité et Jeune fille de couvent. Alors merci Danick Trottier, puis à une prochaine, j'espère.
Ça fait plaisir, à une prochaine.
On trouve nos vieilles nuits magiques. Parce qu'il n'y a plus de musique qui est pas faite en plastique, comme un ballon qui tourne toujours en rond. On attend la fin du show. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé ce coup-là à faire sauter, mais comme il reste plus d'effets spéciaux, ils ont fait fait sauter le chanteur. Et moi je l'ai manqué, je regardais un haut-parleur. Il est tellement gros, tellement plus gros que son.